tel quel. Podcast.
Jours. C'est le laps de temps entre la double annonce de Donald Trump et l'atterrissage du premier avion israélien sur le tarmac de Rabat. Pour rappel, c'est le 10 décembre dernier qu'à la surprise générale, le président des États-Unis a annoncé la reconnaissance du Sahara marocain par le pays de l'oncle Sam, puis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Et c'est le 22 du même mois qu'un avion commercial en provenance de Tel Aviv allait se poser au Maroc, une première. À bord, les acteurs clés du deal historique, aussi bien côté américain qu'israélien. S'en est suivi une réception royale au palais de Rabat avec à la clé une déclaration conjointe et des engagements tripartites en matière d'investissement multisectoriel dans le sud du Maroc dans un premier temps et au niveau du continent Afrique dans un second temps. Si la dynamique est lancée, reste à savoir si l'horizon restera suffisamment dégagé pour permettre de nouveaux décollages. Je suis Rachid Alaoui, vous écoutez le Scan, podcast d'actu le tel quel, décor et envers du décor du premier vol Tel Aviv-Rabat, son atterrissage et surtout les coulisses, avec Yacine Majdi. Yacine, bonjour.
Bonjour Rachid.
Journaliste tel quel. Faut-il considérer que le premier vol aérien Tel Aviv-Rabat, qui a eu lieu le 22 décembre dernier, a donné lieu à une véritable storytelling à l'américaine?
Alors oui, Rachid, du côté israélien, en tout cas, on a pu voir tous les éléments du storytelling à l'américaine, et ce, dès l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, alors que l'avion n'avait pas encore décollé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un avion de la compagnie El Al, une compagnie privée israélienne, qui était décoré avec une décoration assez spéciale. Alors d'abord, il y avait les drapeaux des trois pays concernés, les États-Unis, le Maroc et Israël, mais aussi, aux côtés des drapeaux des trois pays, la main de Fatna, qui est symbolique tant pour la culture marocaine, on le sait très bien, que pour la culture judaïque ou hébraïque, puisqu'elle incarne là aussi la protection contre le mauvais œil. Alors cette main de Fatna, ou cette Ramsa, elle est liée directement au nom de code de l'avion. Ou en tout cas, au numéro de code qui a été donné à cet avion de la compagnie El Al, qui est 555. En hébreu, et un peu, qui se rapproche un peu de l'arabe, on prononce Khamsa, Khamsa, Khamsa. Et côté marocain, ou en arabe, on prononce Khamsa, Khamsa. Ou qui est une référence directe au Khamsa, Khamis. Alors, au-delà des éléments décoratifs de l'avion, il y a aussi le moment où l'avion décolle, ou plutôt approche du territoire marocain. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'avion n'a pas pu franchir les espaces aériens algériens et tunisiens, et donc a dû prendre une route déviée, puisque les autorités algériennes et tunisiennes ont toutes les deux refusé de laisser passer l'avion dans leur espace aérien. Lorsque l'avion parvient enfin à arriver sur l'espace aérien marocain, il y a cet échange entre le commandant de bord et la tour de contrôle à Casablanca, qui est immortalisée par un journaliste israélien. Là encore, on est dans le storytelling, on peut voir le commandant de bord s'adresser à son interlocuteur en arabe d'abord, en prononçant un message de paix. Et on va dire que c'était l'un des nombreux éléments qui ont contribué au storytelling du côté israélien. Et il y en a encore d'autres.
Tout a été donc bien pensé, réfléchi et réalisé.
Oui, tout à fait, Rachid.
Et à bord de cet avion commercial, mais surtout spécial, qui a fait le voyage?
Bien sûr, côté américain, on a à bord le duo qui est composé de Jared Kushner et Avi Berkovitz, qui sont les deux hommes, on les a évoqués dans un podcast précédent, qui ont contribué au triple rapprochement entre le Maroc, les États-Unis et Israël, côté américain. Et à côté d'eux, il y avait un certain personnage que l'on connaît sous le nom de Adam Boller.
Justement, Adam Boller, on le présente comme l'homme fort de Donald Trump, mais sans qu'on sache qui est-il réellement.
Or, en fait, Rachid, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adam Boller, c'est surtout l'homme fort de Jared Kushner, et ça montre là encore toute l'influence de Jared Kushner au sein de la Maison Blanche. Alors, Adam Boller, c'est un ancien colocataire de Jared Kushner.
Ils étaient étudiants ensemble?
Oui. Alors, derrière ça, il a été nommé en 2019 à la tête d'un fonds étatique américain qui a été créé par Donald Trump. Alors ce fonds étatique s'appelle la United States International Development Finance Corporation. Derrière ce nom barbare qu'on peut résumer par le sigle IDFC, il y a un bras armé économique américain qui vise à soutenir le secteur privé dans les pays en voie de développement. Alors l'IDFC, avant de venir au Maroc, et ça on va en parler plus tard, a d'abord investi dans d'autres pays comme le Mozambique, par exemple, où l'IDFC a investi plus d'1,5 milliard de dollars pour la promotion, pour le développement d'une plateforme de gaz naturel liquéfié propulsée par l'entreprise américaine Exxon. Quelques semaines plus tard, l'IDFC s'est engagé à financer à hauteur de 2 milliards de dollars le fonds souverain indonésien. Alors, ce moment avait été immortalisé par le ministre de l'Investissement indonésien, qui a loué la proximité qu'il avait avec Adam Boller dans un post sur Instagram.
Et du côté de la délégation israélienne, qui était présent et qui était à bord de cet avion?
Alors, côté israélien, le nom qu'il faut retenir, c'est celui du chef de la délégation. C'est Meir Ben Shabbat. Alors, Meir Ben Shabbat n'est pas vraiment connu au Maroc, mais pourtant, c'est un homme d'origine marocaine. Alors, Meir Ben Shabbat, en fait, il est né en 1966, et c'est le fils de Aziza et de Mkhlouf Ben Shabbat, qui étaient des religieux juifs marocains et qui ont choisi d'émigrer en Israël durant les années 60. Alors, c'est le 12e enfant d'une fratrie de 14 enfants. Mais surtout, Meir Ben Shabbat, c'est un sécuritaire bien connu en Israël. Il a fait ses armes au Shin Bet, le service de sécurité israélien, et il est surtout connu pour son travail au sein du service contre la cybercriminalité, contre le terrorisme et l'espionnage. Et enfin, en 2017, justement, avec tous ces faits d'armes, Netanyahou l'a choisi pour présider le Conseil national de sécurité israélien.
Compte tenu que Meir Ben Shabbat est d'origine marocaine, comme vous l'avez souligné, est-ce qu'on doit considérer que ça a été l'homme clé de la réactivation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ?
Oui, tout à fait, car au-delà de son poste de président du Conseil national de sécurité, c'est surtout l'homme de Netanyahou pour le rapprochement avec les pays arabes. Avant le Maroc, Meir Ben Shabbat, on a pu l'apercevoir au Bahreïn, où il a mené la délégation israélienne pour officialiser le rapprochement entre les deux pays. Et il a aussi accompagné Jared Kushner aux Émirats Arabes Unis. Mais surtout, au Maroc, c'est l'homme dont on se souviendra pour avoir prononcé trois fois « Laïbark Famar Sidi » au moment de se présenter devant le roi.
Au-delà des salam alek au palais royal et les convenances protocolaires, l'image qui a été le plus commentée, qui a fait le buzz, hein, c'est la présence du chef de gouvernement Saladin al-Othmani.
Cette image, là, si, elle a fait jaser, mais elle n'est en aucun cas choquante. La déclaration conjointe, c'est un texte habituel que l'on signe à la fin de chaque visite officielle. Elle fait l'objet de négociations diplomatiques intenses et reflète la position des pays concernés par ces visites officielles. Parfois, elle est signée par le chef d'État. Le roi Mohamed VI l'a signée, par exemple, lorsque d'autres chefs d'État ont signé ces déclarations conjointes. Parfois, il arrive que ce soit le chef du gouvernement. Parfois, ça peut être un autre ministre. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est que le texte de la déclaration, en fait, n'est pas tellement contradictoire des positions de Saladin al-Othmani. Par exemple, ce texte fait la part belle à la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Washington. Il y est également précisé que pour le Maroc, Jérusalem est une ville sainte qu'il faut préserver, et dont il faut préserver le statut. Et enfin, aucune mention n'est faite d'une altération du statut de Jérusalem, ni des accords d'Abraham, par exemple, qui ont été signés par le Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis précédemment.
Après la signature de la déclaration conjointe, est-ce que tout ce beau monde est rentré à la maison ?
Pas vraiment, Rachid. En fait, tout simplement, on est passé de la salle d'audience du Palais Royal à la maison d'hôte du Palais Royal de Rabat, où 6 accords ont été signés. On parle de 4 accords côté Maroc-Israël et 2 accords côté États-Unis-Maroc. Alors, on va d'abord se concentrer sur les accords américains, car ils sont les plus concrets et ont surtout la valeur la plus importante, on va dire. Tout d'abord, il y a ce mémorandum qui a été signé par Mohamed Ben Chaboun côté marocain et justement Adam Boller dont on parlait précédemment et qui prévoit la mise en place d'un soutien financier d'un montant de 3 milliards de dollars destiné au secteur privé marocain. Est-ce que ce texte signé par l'homme connu pour ses souhaits orange est une aide ou un prêt ? On n'en sait pas, on n'en sait rien, car sur cette question, la communication des deux diplomaties, qu'elles soient marocaines ou américaines, est restée très évasive. Ce qui a également été présenté ce soir-là, c'est une lettre d'intention du Maroc, et dans laquelle le Royaume affiche son soutien à l'initiative américaine Prosper Africa, et annonce son intention d'accueillir une antenne de cette initiative au Maroc, au sein de l'ambassade américaine à Rabat. Cette initiative, Prosper Africa, qui est aussi propulsée par l'IDFC, en fait, prévoit des investissements visant à soutenir le secteur privé africain. Cette antenne, en l'occurrence la future antenne Rabati de cette initiative américaine, verra transiter 2 milliards de dollars d'investissements destinés au secteur privé africain. Donc au total, on parle de près de 5 milliards de dollars destinés au soutien des secteurs privés marocains et africains.
Donc ça veut dire qu'on doit commencer à dessiner les contours d'un Maroc hub régional pour l'investissement privé en Afrique ?
Oui, tout à fait.
Restons sur le terrain des accords économiques et sur le deal business Maroc-Israël. Il y a quoi à se mettre sous la dent ?
Les accords signés par le Maroc et Israël annoncent surtout les perspectives à venir entre les deux pays. Tout d'abord, il y a un accord qui concerne le domaine de l'aviation civile qui a été signé entre les deux pays et qui prévoit justement la mise en place de futures liaisons aériennes régulières entre le Maroc et Israël. Un autre accord a été signé concernant la gestion de l'eau, où Israël s'est imposé en maître. Et enfin, un dernier accord a été signé concernant l'imposition entre les deux pays, ce qui augure de futurs échanges commerciaux entre le Maroc et Israël. Mais au-delà de ces accords, c'est surtout la déclaration conjointe qui trace les axes de la coopération entre les deux pays. Alors cette déclaration conjointe, elle évoque une collaboration renforcée dans le domaine du commerce, du tourisme. Nadia Fitzhar parlait d'ailleurs du fait d'accueillir près de 200 000 touristes israéliens. La technologie et aussi l'énergie.
Signature de la déclaration conjointe tardive et en même temps, personne n'a fait dodo à Rabat ?
Si, Rachid, figurez-vous que justement, Jared Kushner et Avi Berkowitz ont passé la nuit à la maison d'hôte du Palais Royal de Rabat. Au-delà de ça, Meir Ben Shabbat, lui, a dû rallier l'aéroport de Rabat-Salé au plus vite, car Israël était sous le coup d'un blocus aérien, C'est d'ailleurs ce qui a précipité cette visite qui initialement était prévue sur 2 jours et finalement s'est retrouvée cantonnée à 1 demi-journée.
Qu'en est-il dorénavant des perspectives justement? Est-ce que l'horizon est dégagé? Le ciel est bleu? Il n'y a pas de nuages?
Or, plus ou moins, Rachid. D'un côté, il y a une perspective immédiate qui est assez claire. La déclaration conjointe le dit. Les représentations diplomatiques entre le Maroc et Israël devraient ouvrir dans les semaines à venir. Sachant que le Maroc a toujours payé le loyer de sa représentation diplomatique en Israël et qu'Israël est toujours propriétaire de sa représentation diplomatique au Maroc. Donc ce n'est qu'une question de temps. Mais surtout, la déclaration conjointe parle d'efforts soutenus pour le renforcement de ces relations. Donc on devrait voir des évolutions dans les semaines à venir, surtout qu'une deadline a été fixée pour la fin du mois de janvier. Mais il y a quand même un brouillard à l'horizon, puisque le soir même de la signature des accords entre le Maroc et Israël, la Knesset a été dissoute. Ce qui signifie qu'il y aura une réorganisation du jeu politique israélien et que les interlocuteurs que le Maroc a eu jusqu'à présent côté israélien pourraient bien changer.
Est-ce que pour autant ça pourrait changer la déclaration commune et les engagements respectifs des 3 pays?
Pas vraiment, non, puisque justement la déclaration conjointe a fixé une deadline très claire, ce qui est très rare d'ailleurs pour ce genre de déclaration. Tous les acteurs concernés d'ailleurs l'ont dit et redit et se sont fixés l'objectif de la fin du mois de janvier. En témoigne d'ailleurs la récente sortie du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a annoncé que le lancement du processus de la mise en place du consulat américain d'Arla. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir des choses très prochainement.
Merci beaucoup Yacine.
Merci Rachid.
Le scan s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur telquel.ma.
Pour plus d'enquêtes, de reportages et d'analyses, abonnez-vous à Telquel sur telquel.ma/abo, telquel.ma/abo, A-B-O.